Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 30 novembre 2015. Au sommaire ce soir,
élection au Burkina Faso, la population attend les résultats promis pour ce soir par la CENI.
Fin de la visite du pape à Bangui, le souverain pontife appelle les centrafricains à rejeter la violence et la haine et œuvrer pour la paix.
L'ONU condamne les attaques perpétrées hier soir dans l'est de la RDC et enfin au moins 24 morts.
La violence persiste au Burundi. Un officier supérieur de l'armée a été tué hier soir.
Au chevet de la planète, des leaders du monde entier prennent part à la COP21 à Paris.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué la manière pacifique dont ont été conduites les élections au Burkina Faso et plus particulièrement la forte participation des femmes au processus électoral. On attend la proclamation des résultats définitifs que la CENI a promis pour ce soir. On fait le point avec Bagassi Koura.
Après les dépouillements, c'est la phase de compilation et de transmission des résultats. Les votes des 368 communes du pays doivent être traités et transmis à Ouagadougou par voie électronique. Cet après-midi, la CENI n'a publié que les résultats d'un peu plus du tiers des 368 communes du pays. Sur ce qu'on sait déjà sur la base de ces résultats partiels, les deux candidats favoris de la présidentielle, Rocco Kabore et Zéphirin Diabré, se détachent largement du lot. On ne sait pas encore si un second tour sera nécessaire pour les départager. Dans tous les cas, les deux candidats ont annoncé qu'ils reconnaîtraient les résultats, quels qu'ils soient. On ne sait pas non plus si la CENI sera en mesure de donner tous les résultats dès ce soir comme promis. Le scrutin de dimanche s'est déroulé dans le calme. Plus de 5,5 millions de Burkinabés étaient appelés aux urnes pour élire non seulement leur président, mais aussi 127 députés. Pour la future Assemblée nationale, Bagassi Koura, Ouagadougou pour VOA Africa.
Boko Haram encore frappé dans le sud-est du Niger. 4 villageois ont été tués et 2 autres blessés samedi soir dans un village près de Diffa. Les autorités locales font état d'une 50aine d'habitations brûlées. Les éléments de Boko Haram, armés de Kalachnikov, auraient traversé la rivière Komadougou-Yobé, frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria. Ils auront ensuite pris la fuite vers le Nigeria.
Le pape François a bouclé sa tournée africaine ce lundi en Centrafrique. Il a quitté Bangui pour Rome en début d'après-midi, avant son départ de la capitale centrafricaine où il a passé 48 heures. Le Saint-Père a été accueilli avec joie et émotion dans la matinée à la grande mosquée du quartier musulman de PK5. Il a ensuite célébré une messe au grand stade de la ville. Retour sur la dernière étape de la visite du pape François à Bangui avec Freeman Sipila. On reviendra un peu plus tard sur ce reportage. Réaction de l'ONU.
La visite du pape François ce matin à la grande mosquée de PK5 était très émotionnelle. Dans son mot de circonstance, le chef de la mosquée centrale, l'imam Tidjani Moussa Naibi, a indiqué que chrétiens et musulmans sont condamnés à vivre ensemble. Prenant la parole à son tour, le pape François a salué les efforts des responsables de la communauté musulmane en faveur de la paix et du vivre ensemble en Centrafrique. Le chef de l'église catholique a formulé aussi les vœux de voir les Centrafricains s'unir avant d'aller aux élections prévues fin 2015. La grande messe célébrée par le Saint-Père au complexe sportif Barthélemy Bougonda avant son départ pour l'aéroport a mobilisé 2 milliers de Centrafricains venus de partout. La confession musulmane était aussi fortement mobilisée pour cette messe. Abdoulaye Wasselégué, l'imam de la mosquée détruite de Pétévo dans le 6e arrondissement, a pu sortir de PK5 isolé depuis plusieurs semaines.
C'est une journée de paix, une journée de sécurité, une journée de confiance.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU a condamné les attaques d'hier soir dans l'est de la République démocratique du Congo. Attaques qui ont fait au moins 24 morts. On pointe du doigt les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Ces attaques se sont produites en territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Le point avec Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa.
Les éléments de l'Alliance des forces démocratiques, groupe rebelle ougandais qui opère dans la région de Béni, ont lancé 3 attaques simultanées contre une position des FRDC à Makeni, c'est à 6 km au sud-ouest de Eringeti dans le territoire de Beni. Une autre attaque contre la base opérationnelle de la force de la MONUSCO qui est déployée à Eringeti. Et une troisième attaque était dirigée contre la ville de Eringeti où les rebelles de l'ADF ont eu à piller les magasins et brûler des maisons et ensuite sont allés à l'hôpital où 7 personnes ont été tuées à la machette, 7 personnes qui étaient internées. Nous avons eu 2 casques bleus du bataillon Malawi qui ont été blessés et un succombera à ces blessures. Le bilan provisoire fait état d'un casque bleu tué, un autre casque bleu blessé, 4 soldats FRDC tués et 4 autres blessés, ainsi que les 7 civils qui ont été tués à l'arme blanche, et 12 ADF ont été tués.
Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa.
Naufrage dans l'est de la RDC. Un enfant est mort et 22 personnes sont portées disparues, d'après les autorités. Ils étaient à bord d'un canot rapide assurant la liaison entre les rives nord et sud du lac, de sources officielles. Nous avons posté des photos sur notre site web voafrique.com. Cliquez sur la Une Afrique.
Nouvel assassinat à Bujumbura, un officier supérieur de l'armée burundaise a été tué dimanche soir dans le bar de l'épaule de la première vice-présidente du Sénat. Un homme non identifié s'est introduit dans l'établissement et a ouvert le feu, a indiqué à l'AFP le chef du quartier Kibenga. Le major Salvador Katiabwa serait mort sur le champ. 2 personnes auraient été blessées, dont le propriétaire du bar.
Bousculade dans une université de Nairobi au Kenya. Un exercice impliquant une simulation d'attaque terroriste a provoqué un mouvement de panique. Au moins 3 étudiants ont été blessés, dont l'un dans un état critique. C'est ce que rapporte la Croix-Rouge kenyane et l'établissement cité par l'AFP.
Lutte contre le terrorisme. 2 Français âgés de 19 et 20 ans ont été écroués mi-novembre à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu rejoindre l'organisation État islamique en Libye via la Tunisie. A appris aujourd'hui l'AFP de sources judiciaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La conférence des Nations Unies sur le climat a débuté ce matin à Paris. Près de 150 chefs d'État sont réunis pour des négociations qui doivent faire naître un accord pour limiter le réchauffement climatique. Qu'en est-il ressorti? Résumé de cette journée de lancement avec notre correspondant à Paris, Christian Mponzo.
Décider ici de l'avenir de la planète, c'est par ces mots que François Hollande a officiellement ouvert la COP21. Le président français a invité tous les diplomates présents dans l'Assemblée à se montrer à la hauteur de la tâche qui les attend dans les jours qui viennent. La mission, trouver un accord coûte que coûte pour limiter le réchauffement climatique à au moins 2 degrés d'ici la fin du siècle. De l'avis de tous les participants, l'accord doit être universel et contraignant. La plupart des chefs d'État l'ont souligné dans leur déclaration nationale. Des déclarations plutôt courtes, moins de 10 minutes en moyenne par personne. Certains dignitaires se sont tout de même fait remarquer, Vladimir Poutine en premier lieu. Arrivé en retard de plusieurs heures, le président russe réclame un accord équilibré. Barack Obama a lui reconnu que les États-Unis étaient une des sources du problème. En marge des discours, le président américain a rencontré Vladimir Poutine. L'entrevue était exceptionnelle et à huis clos pendant 30 minutes. Aucune information n'a filtré sur le contenu des discussions. Plus tard ce soir, Barack Obama est convié à un dîner de travail au Palais de l'Élysée avec François Hollande. Ce dîner sera largement consacré au débriefing de cette journée de lancement. Depuis Paris, Christian Mponzou pour VOA Afrique.
Vladimir Poutine a refusé de rencontrer ce lundi à Paris Recep Tayyip Erdogan malgré l'insistance du président turc. C'est ce que rapporte l'AFP. Rappelons que la Turquie va subir les sanctions économiques de Moscou après avoir abattu un bombardier russe à sa frontière avec la Syrie. Monsieur Erdogan a exprimé de la tristesse pour l'incident, mais il refuse de présenter des excuses. Le président Barack Obama a appelé à une désescalade de ces vives tensions entre Moscou et Ankara lors d'un entretien à huis clos avec son homologue russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche. Les mesures envisagées par Moscou comprennent l'interdiction d'importation de certains produits et, le plus important, la fin de tous les vols charter entre les deux pays. Un coup dur potentiel pour le tourisme en Turquie.
15 combattants du front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, ont été tués dimanche dans des affrontements qui ont débuté la semaine dernière dans le nord d'Alep, ancienne capitale économique de Syrie. En tout, les combats opposant les islamistes à une alliance arabo-kurde soutenue par les Américains ont fait au moins 36 morts, dont 13 civils, selon l'AFP, citant l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Et toujours concernant la guerre en Syrie, le régime du président Bachar al-Assad a catégoriquement démenti avoir fait usage d'armes chimiques, dont du gaz de chlore, depuis le déclenchement du conflit en 2011. Damas assure devant l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques coopérer pleinement avec les efforts de destruction des stocks. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec la Nathalie Barche.
Quelques 150 chefs d'État et de gouvernement sont à Paris pour l'ouverture de la conférence sur le climat. Les dirigeants africains ont coordonné leurs actions en faveur d'un accord contraignant. Il faut que les pollueurs payent, il faut que Paris envisage des sanctions, des engagements contraignants, a déclaré le président nigérien Mamadou Issoufou dans les médias français. L'État sénégalais prévoit la construction d'au moins 15 000 logements par an pour combler un déficit de 60 000 logements, rapporte l'APA, citant l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Au terme d'un séminaire sur le financement de l'habitat social à Abidjan, Doudouka a cité l'Afrique du Sud et le Maroc comme de bons exemples à suivre en matière d'accès au logement. Lors de la rencontre, il a été souhaité que la part du budget des États de l'UEMOA et de la CEMAC affectée au programme de l'habitat soit de 20 à 40% du PIB. Au Cameroun, les droits de transit du pétrole tchadien ont généré près de 30 milliards de francs CFA au cours des 10 premiers mois de l'année 2015, soit une hausse de plus de 68% par rapport à l'année dernière, selon la Société nationale des hydrocarbures. Les droits de transit du pétrole ont été revalorisés fin 2013, la redevance étant passée de 195 à 618 francs CFA le baril de brut, rapporte l'APA.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Nathalie Barge. Merci. On passe au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Pas de surprise pour la liste des trois finalistes du Ballon d'Or.
L'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone et son coéquipier le Brésilien Neymar ainsi que le Portugais du Real Madrid Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes de ce Ballon d'Or 2015. Le trophée sera décerné le 11 janvier à Zurich. Cristiano Ronaldo, double tenant du titre, et Lionel Messi, quatre trophées à son actif, sont encore une fois sur ce podium. Lionel Messi sera le grand favori devant Cristiano Ronaldo, auteur d'une saison blanche en termes de trophées collectifs. Malgré des statistiques de très haut niveau, Ronaldo a été élu meilleur buteur de la Liga la saison dernière avec, tenez-vous bien, 48 réalisations. Le prix du meilleur entraîneur se jouera entre Luis Enrique du FC Barcelone, Pep Guardiola du Bayern Munich et Jorge Sampaoli, le sélectionneur du Chili, vainqueur de la Copa América. Pour le titre de la meilleure joueuse sont en lice Carly Lloyd des États-Unis, Ayami Yama du Japon et Celia Sazik de l'Allemagne.
Foot toujours, élection du président de la FIFA.
Le secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'il ferait le ménage à la FIFA dès le premier jour en cas d'élection à la tête du football mondial. Des réformes doivent non seulement être décidées, mais elles doivent être aussi mises en œuvre, a déclaré le Suisse, présent en Inde pour assister au trophée du football asiatique. Le Cheikh Salman et Gianni Infantino font partie des favoris pour succéder à Sepp Blatter à la tête de la FIFA après les scandales de corruption inédits qui ont frappé l'institution.
L'athlétisme kényan dans l'œil du cyclone.
Le Kenya bientôt comme la Russie, en tout cas l'étau se resserre autour du pays africain et de ses pratiques dopantes avec les suspensions ce lundi des trois plus hauts responsables de la Fédération kényane d'athlétisme. Le comité d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme a annoncé la suspension du président Isaiah Kiplagat, de son vice-président David Okeyo et de Joseph Kinyua, le trésorier de la Fédération kényane. Les motifs avancés font frémir. Il s'agit d'agir dans l'intérêt de l'intégrité du sport. Pour le moment, seules les têtes tombent, pas encore le système, au contraire de la Russie. Et le Kenya espère éviter le sort de ce dernier pays, suspendu de toute compétition d'athlétisme à 9 mois des Jeux Olympiques de Rio.
NBA, championnat de basket nord-américain, Indiana en grande forme.
Ouais, les Pacers se sont restés intraitables. Victoire 107-103 hier face aux Lakers de Kobe Bryant, qui peu avant le coup d'envoi de la rencontre a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. De son côté, Philadelphie a concédé à Memphis sa 18e défaite consécutive, égalant ainsi le pire début de la saison de l'histoire dans le championnat NBA.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, la République démocratique du Congo. De nombreuses réactions à Kinshasa après l'annonce le week-end dernier par le président Joseph Kabila de la tenue prochaine d'un dialogue politique national sur le processus électoral en RDC. Et si certains cadres de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi, la majorité présidentielle et quelques regroupements de la société civile encouragent la tenue de ce forum, Vital Kamerhe et une bonne frange de l'opposition parle déjà d'un coup d'État constitutionnel. D'ailleurs, la dynamique de l'opposition et le G7 disent non au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Ces regroupements de l'opposition l'ont fait savoir à travers une déclaration ce lundi à Kinshasa. Reportage d'Éric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est un dialogue qui ne traitera pas seulement des élections à venir, mais ce sera également un espace pour réfléchir autour de la réduction du nombre de scrutins au suffrage universel. Le président congolais a fait cette proposition lors de son discours à la nation.
Le gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances une enveloppe équivalente à 500 millions de dollars, soit moins de la moitié du budget précité. Comment résoudre un tel dilemme? Ne peut-on pas engager, dès à présent, une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays?
L'idée de réduire le nombre des élections au suffrage universel direct dont le coût pèse sur le maigre budget de la RDC est jugée inacceptable et qualifiée de haute trahison par Franck Diongo de la dynamique de l'opposition.
Le décryptage du message de M. Kabila est clair. Le dialogue, c'est un coup de poignard derrière la constitution. Changer de constitution, c'est rompre le consensus des Sun-City. La motivation principale du dialogue, c'est le changement de la constitution.
Une autre frange de l'opposition favorable au dialogue estime que la réduction du nombre de scrutins au suffrage universel pourrait faire l'objet de discussions. Steve Bikai est de la nouvelle classe politique et sociale.
Une certaine opinion est embarrassée du fait que le chef de l'État a proposé la possibilité d'opter pour un mode scrutin moins coûteux. Cela sous-entend l'élection du chef de l'État au second degré. La NCPS souligne que ce vœu chef de l'État n'est pas une décision. C'est une proposition au dialogue au même titre que d'autres points qui seront soulevés par des participants au dialogue et qui seront soumis au débat pour la recherche d'un consensus.
Au sein de la société civile, on est également divisé. Une partie rejette ces discussions et appelle à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Les pro-dialogues, eux, indiquent que le dialogue est une initiative de la communauté internationale. Cathy Kalanga, de la société civile Interplateforme.
Rappelant les termes de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et coopération pour la République démocratique du Congo et la région, déclarant soutenir la tenue du dialogue politique inclusif qui vient d'être convoqué par le président de la République.
Attendu la mise en place d'un comité organisateur pour un dialogue dont la date et le nom du co-modérateur n'ont pas été précisés. De Kinshasa, Éric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Fermeture demain à Arusha en Tanzanie du tribunal pénal international pour le Rwanda. De 1995 à aujourd'hui, le TPIR a jugé des responsables du génocide au Rwanda perpétré en 1994 et d'autres violations massives du droit humanitaire international. Au total, 93 personnes ont été inculpées, mais seules 61 ont été condamnées. Parmi elles, des hauts gradés de l'armée, des officiels du gouvernement, des politiciens, des hommes d'affaires, des religieux, miliciens et patrons de médias. Aujourd'hui, le TPIR a inauguré un parc de paix à Arusha en mémoire du travail accompli. Eric Manirakiza a joint à Arusha le président du comité d'organisation de la cérémonie de fermeture, Ousmane Djikam.
20 ans après, je ne pourrais pas dire que le travail est complètement accompli, mais je dirais que le travail a été accompli à 90%. Nous avons quelques 10 personnes que nous n'avons pas pu appréhender et donc nous avons été obligés de référer ces cas aux juridictions nationales et nous avons 3 personnes qui ont été accusées et qui ont été référées au mécanisme résiduel du tribunal. Mais on peut avec certitude dire qu'on a accompli la majeure partie du travail avec succès, dirons.
Au regard des cas jugés et des moyens déployés pour faire fonctionner le tribunal, il y a des critiques comme quoi il y a une grande disproportion.
La réalité, c'est que nous devons dire que la justice n'a pas de prix et que pour les victimes du conflit du génocide au Rwanda, je peux vous assurer que pour eux, ils auraient tout donné pour que les membres de leur famille soient encore vivants. Donc c'est une réponse de la communauté internationale à la situation qui a eu lieu en 1994. Bien entendu, nous reconnaissons que de la justice coûte cher, mais l'option, l'alternative est pire. L'alternative aurait été l'impunité. La communauté internationale a voulu envoyer un message clair pour dire qu'elle ne va pas rester bras croisés et regarder comment l'impunité règne. Et pour cela, il n'y a pas de prix. Parce que rappelons-nous que après le génocide, tout le système juridique au Rwanda était complètement anéanti. Donc il fallait reprendre à zéro. Et pour cela, il fallait vraiment l'aide internationale.
Et est-ce que les jugements rendus vont-ils aider pour prévenir des génocides éventuels?
La jurisprudence que nous avons rendue a été à mesure d'être à la hauteur des attentes. Donc nous avons pu trouver coupables et mettre en prison ceux qui ont commis le génocide. Et d'autre part, nous avons contribué énormément à la réconciliation au Rwanda. Cette réconciliation n'aurait jamais pu avoir lieu sans la volonté et le rôle que les Rwandais eux-mêmes ont joué. Le tribunal a contribué à remettre le système judiciaire du Rwanda en place et aussi à servir un rôle éducatif, parce que nous non seulement nous voulons punir ceux qui ont commis le génocide, mais nous voulons tout faire pour que ça ne se répète pas. Donc c'est à travers la jurisprudence que nous espérons avoir un effet déterrant, et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui inauguré un parc, le Arusha National Park, en mémoire du travail du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et ce parc aura aussi un endroit pour les enfants pour jouer, parce qu'on s'est dit que pour éviter le génocide, il faut commencer à éduquer à partir de la base. À partir des enfants, il faut les faire comprendre que nous ne devons plus jamais arriver à ce stade-là.
Ousmane Djikam, joint à Arusha en Tanzanie.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Une des manifestations du changement climatique au Niger, c'est la dégradation des terres arables. Beaucoup d'initiatives ont été entreprises pour récupérer ces terres dégradées. Pas loin de Niamey, la capitale, des villageois ont initié, avec l'appui de partenaires et les services de l'État, des techniques de récupération qui réussissent plutôt bien. C'est le cas de la confection des banquettes sur le site de Yetoréala, où s'est rendu notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Le site de Yetoréala, traduisez Dieu merci en langue peul, s'étend sur plus de 1000 hectares. Il est situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey. C'est un plateau où charpente le fleuve Niger. Dans le temps, il faisait le bonheur des populations environnantes du fait de l'abondance de sa faune et de sa flore.
Moi, je suis natif d'ici. Et actuellement, j'ai 55 ans. Lorsque j'avais entre 8 et 10 ans, je gardais les troupeaux ici. C'était vraiment une vraie forêt. Il y avait presque toute la faune, la petite faune, des lièvres jusqu'aux antilopes, les hyènes, les phacochères, je les vois, ils étaient là. Vous allez rencontrer des troupeaux de plus de 100 pintades qui se suivent. Les lièvres, les écureuils, les perdrix.
La pollution et les effets du réchauffement climatique sont passés par là et le site changea de visage pour devenir un désert qui s'étend à perte de vue. Il fallait donc trouver un moyen pour stopper cette désertification, d'autant plus que la dégradation de l'écosystème menaçait aussi le fleuve. La solution, installer des banquettes pour retenir l'eau sur le site et favoriser ainsi la repousse des plantes. Le choix des banquettes comme technique de récupération sur le site de Yetore Alla n'est bien évidemment pas un fait du hasard, comme l'explique le responsable communal de l'environnement.
Le traitement se fait de l'amont à l'aval. Maintenant, nous sommes à l'amont ici. Il faut tout faire pour freiner les eaux qui puissent ruisseler, aller vers le bas.
En attendant, Yetore Alla fait plaisir à voir un oasis au milieu du désert. Moussa Garba espère en voir pousser d'autres avant qu'il ne soit trop tard.
C'était notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Malgré de nombreux conflits entre gouvernements et rebelles et en dépit des années de sanctions internationales, le Soudan représente de plus en plus une terre d'accueil pour de nombreux Syriens fuyant la guerre dans leur pays. La langue commune avec la Syrie serait une des raisons de cette nouvelle alternative. Arzouma Compaoré a joint à Khartoum Sadek El Magli, ancien directeur de la mission du Soudan auprès de l'ONU.
Il y a des familles intégrales qui se sont installées au Soudan. Le peuple soudanais est un peuple accueillant, un peuple hospitalier. Maintenant, dans tous les quartiers, pratiquement dans tous les quartiers de Khartoum, on trouvait des Syriens dans les logements et dans surtout les PMO, les points et plus à moyenne entreprise. Ils ont voulu investir au Soudan. Surtout dans la pâtisserie, dans la restauration, dans les moyens de construction.
Quel sera, selon vous, en fait, l'avenir pour ces nombreux réfugiés qui, de plus en plus, hein, depuis 2011, selon les rapports que nous avons, plus de 45 000 Syriens qui sont arrivés.
Mais 40 000, c'est un nombre pas tout à fait important par rapport aux 5 millions qui ont fui la guerre en Syrie. Hein. Les chrétiens, ils viennent, les musulmans, ils viennent, les douze, tous les Syriens sont au Soudan maintenant, sans aucun problème. Les Nations Unies font strictement rien vis-à-vis de ces réfugiés. C'est le gouvernement soudanais qui le fardon. Les Nations Unies ne partagent pas le fardon de la présence des réfugiés syriens au Soudan. Dans tous les quartiers de Khartoum, vous trouvez des Syriens, soit dans la construction de bâtiments, moyens de construction, soit dans la pâtisserie, soit dans la restauration. Ils gagnent les vies très bien. Mieux même que des Soudanais, hein. Il y a un bon maintenant dans le logement. Ce sont les locataires qui bénéficient parce qu'ils haussent un petit peu le loyer dans la capitale. Hein. Vous voyez, le Soudan, je vous dis franchement, ce n'est pas de souci. Hein. Ils vivent comme les Soudanais, comme les Soudanais. Personne ne parle, ni la presse, ni le gouvernement, ni le moyen, le Soudanais moyen. Personne ne parle de ces réfugiés. Ce n'est pas un souci, hein, pour le Soudan. Pas du tout.
Sadek El Magli est un ancien directeur de la mission du Soudan auprès de l'ONU.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui assurait la mise en onde ce soir, assisté de Nelson Lopez à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Orsi.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.